Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La presse et le Journal de Montréal. Au programme, la fierté, c'est bien, le soutien, c'est mieux. CF Montréal, quand l'élève devient le maître. Et menacé de quitter le Québec, la plus vieille cloche de Montréal sera finalement horitigée. Bonne écoute.
La fierté, c'est bien. Le soutien, c'est mieux. Un texte de Marc Cassivi, paru le 5 février 2023 dans La Presse. Le restaurant Toki aura 30 ans cette année. Son chef et copropriétaire, Normand Laprise, s'est entretenu avec notre chroniqueur sur l'avenir de la haute gastronomie. Normand Laprise me montre une photo de sa fille, une adolescente toute fière qui vient de pêcher sur la glace une truite de 4 livres. Ce que le chef du Toki a tiré comme bienfait de la pandémie, dit-il, c'est un meilleur équilibre entre son travail et sa vie familiale. Je dis toujours, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Ça vaut pour le temps comme pour les truites. Fini l'époque où Laprise travaillait 90 heures par semaine comme jeune chef du Citrus dans le Mile End de Montréal au début des années 1990. Avec la pandémie, j'ai été plus présent auprès de mes filles. Quand on a rouvert, j'ai dit à mon épouse que je serais à la maison avec elle le samedi soir. La pandémie, bien sûr, a surtout apporté son lot d'inconvénients aux restaurateurs. Toki, dont Laprise est copropriétaire, avec son associée, Christine Lamarche, célébrera son 30e anniversaire en juin. Mais ce fleuron de la gastronomie québécoise a dû fermer 22 mois pendant la pandémie. À la réouverture, Normand Laprise avait perdu 5 de ses 14 cuisiniers. Certains se sont réorientés, d'autres sont retournés vivre en France ou en Espagne. La pandémie, on l'a encore sur le dos. On n'en parle plus, mais on en ressent encore les effets. C'est comme avoir été impliqué dans un gros accident. On est en train de s'en remettre, mais on n'est pas complètement guéri, dit le chef Normand Laprise. Le chef reste optimiste, c'est dans sa nature. Tout en répétant plusieurs fois pendant notre entretien d'une heure et demie chez Toki qu'il faudra que l'État intervienne pour soutenir ceux qui tiennent la gastronomie québécoise à bout de bras. Au début de la pandémie, la brasserie T du quartier des spectacles a fermé ses portes définitivement. Une nouvelle brasserie ouvrira à Sainte-Thérèse au printemps. C'est donc grâce au Beaumont, petit frère du Toki, dans Parc Extension, à ses plats à emporter et à son comptoir épicerie, que Laprise a réussi non pas à garder toute la tête, mais le nez hors de l'eau, dit-il. On va s'en sortir, mais il va falloir qu'il y ait du soutien, dit-il. Les politiciens m'appellent pour avoir mon avis, pour que je participe à des tables rondes, mais l'aide ne suit pas. C'est bien d'être fier de notre patrimoine gastronomique. C'est encore mieux de le soutenir, de le valoriser et de le protéger, dit Normand Laprise. Je lui parle de René Redzepi, le célèbre chef du Noma, qui a annoncé récemment la fermeture du meilleur restaurant au monde, à Copenhague, qu'il va transformer en atelier de recherche. Faut-il en conclure que la haute gastronomie n'a pas d'avenir? C'est extraordinaire ce que René Redzepi a fait, dit Laprise. Mais il est soutenu par le gouvernement danois. Je ne connais pas beaucoup de restaurateurs qui peuvent se permettre de fermer pendant 6 mois et juste faire des pop-up. Personne ne veut investir dans les restaurants. Ce n'est pas payant. Mais le tourisme, c'est très payant pour un gouvernement. Il y a 10 ans, personne n'allait faire du tourisme gastronomique au Danemark. Redzepi a vendu à l'étranger l'image du pays par sa cuisine. Au Québec, la pandémie et l'inflation ont eu raison de l'enthousiasme de plusieurs restaurateurs, dont Martin Junot, qui a annoncé récemment qu'il quittait le Pastaga. Antonin Mousseau-Rivard a lancé un cri du cœur en novembre 2021 à propos du manque d'aide de l'État à la gastronomie. Son restaurant gastronomique, le Mousseau, offre maintenant une formule de dégustation unique 3 soirs par semaine. Avec la qualité qu'il propose, avec le volume qu'il a, à New York ou à Paris, son restaurant serait plein tous les soirs de la semaine, croit Normand Laprise, qui salue le courage du jeune chef. Une cliente vient le surprendre par derrière et l'embrasse sur la joue. C'est une jeune restauratrice montréalaise qui a, elle aussi, décidé de quitter la profession en raison de la pandémie. Elle a tout vendu et songe à s'établir à New York. Y a-t-il au Québec une masse critique permettant à la haute gastronomie de survivre? Si Toqué existe depuis bientôt 3 décennies, c'est parce qu'il peut compter sur une clientèle d'affaires et sur le tourisme d'affaires. C'est ce qui nous permet de vivre à l'année, explique Normand Laprise. Juste avec la clientèle locale, on n'aurait pas assez de volume. Vous écoutez? La fierté, c'est bien. Le soutien, c'est mieux. Un texte de Marc Cassivi, paru le 5 février 2023 dans la presse. Normand Laprise sait bien qu'on s'offre généralement sa cuisine pour souligner une occasion spéciale. Il en a, en revanche, contre l'idée que ce qu'il propose est trop podéreux. Ça me fait toujours un pincement au cœur. C'est comme si on me disait que c'est trop cher pour ce que c'est. Toqué, c'est 14 cuisiniers et 14 serveurs pour 80 clients max. Tout est préparé sur place. Les fonds, les sauces, les pâtes, les desserts, la boulangerie. On veut que les gens puissent vivre une expérience mémorable, unique, dont ils se souviendront longtemps. Ça vaut combien? Si on compare avec le prix d'un billet pour aller écouter une vedette au Centre Bell ou voir un match des Canadiens... Il est justement allé voir un match du Canadien avec sa fille récemment et a été estomaqué par les prix à la cantine. « Je déteste parler d'argent, » dit-il. « Mais il faut que les gens soient prêts à payer le juste prix pour nous permettre de continuer de vivre et pas juste de survivre. Et je parle non seulement des cuisiniers, mais des maraîchers, des agriculteurs, des bouchers, des chocolatiers. Il ne fait affaire qu'avec de petits producteurs triés sur le volet, la traçabilité des produits étant pour lui primordiale. Jamais il ne pourra lésiner sur la qualité. Je ne serais pas capable de prendre un produit de moindre qualité. Il y a des modes en cuisine. Il y a des tendances. Elles sont éphémères. Dans chaque mode, il y a quelque chose à aller chercher. Mais je ne changerai pas ma philosophie en cuisine. Sa philosophie est simple. Le plus important, dit-il, c'est l'authenticité. Aussi, pour assurer la pérennité de la gastronomie québécoise, il faut des produits locaux de qualité, une rigueur dans l'exécution, une préparation respectueuse de chaque aliment, sans oublier le bon assaisonnement. J'ai grandi dans une ferme avec des produits frais, des traditions, du savoir-faire et une cuisine goûteuse, proche des gens. C'est loin du raffinement de mes restaurants, mais c'est pour dire que ce qui est important, c'est la démarche, la philosophie derrière le plat, pas seulement l'emballage. Il est fier du reste que sa philosophie ait été perpétuée par ses anciens sous-chefs Martin Picard, du Pied de cochon, Charles-Antoine Crête, du Montréal Plaza, ou encore Mehdi Brunet-Benkritli, du Marconi, qui font aussi affaire avec des producteurs locaux respectueux de nos ressources. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La citation de Lavoisier représente la vision de Normand Laprise de l'avenir de la gastronomie qui doit passer par des changements dans nos habitudes, selon lui. Pour qu'on aille mieux, pour que notre planète aille mieux, est-ce que je suis un idéaliste? Probablement que oui. Mais si je ne l'avais pas été, je n'aurais jamais construit Toqué avec Christine. Questionnaire sans filtre. Le café et moi. J'entretiens une relation fusionnelle avec le café et je ne peux commencer ma journée sans mon café. Je le bois invariablement de la même façon, à savoir un expresso serré que j'allonge avec de l'eau chaude et du lait chaud. J'en reprends un demi après le lunch. Il y a plus de 25 ans, des membres de mon équipe l'ont surnommé le café du chef. Mon voyage de rêve. Ce rêve est constant depuis de nombreuses années. Un jour, j'aimerais partir en Écosse ou en Irlande et jouer au golf tous les jours avec mes enfants et Sophie, mon épouse. Ma devise en cuisine. Quand il y en a plus, il y en a encore. Un don que j'aimerais posséder. Être un poisson rouge, comme dirait Ted Lasso. Be a goldfish. Pour moi, ça veut dire d'être capable de faire le vide après un stress. D'être capable de passer à autre chose au lieu de tout ressasser sans arrêt dans sa tête et de se réveiller à 3 heures du matin. Qui est Normand Laprise? Il est né en 1961 dans une famille de 8 enfants à Saint-Philippe-de-Néry, près de Kamouraska. À sa sortie de l'école hôtelière de Charlebourg, en 1981, il fait ses classes auprès du chef Jacques Le Pluard au restaurant Marie-Clarisse à Québec. Il suit ensuite des stages de perfectionnement en France et aux États-Unis. Il devient chef chez Citrus à Montréal en 1989, où travaillent notamment sous sa direction Martin Picard et Christine Lamarche. Avec elle, Laprise ouvre le Toqué, rue Saint-Denis, en mai 1993. Le restaurant déménage dans un plus grand local, place Jean-Paul Riopel, 10 ans plus tard. C'était « La fierté, c'est bien, le soutien, c'est mieux », un texte de Marc Cassivi, paru le 5 février 2023 dans La Presse. CF Montréal, quand l'élève devient le maître. Un texte de Justin Vézina, paru le 5 février 2023 dans La Presse. 22 ans. C'est à cet âge que Louane Schlicht est devenue l'analyste vidéo du CF Montréal. Et il n'est pas intimidé par le défi. Il n'y a pas de « tu as l'âge » ou « tu n'as pas l'âge ». Ça ne veut rien dire, ça. Si tu es bon, tu es sur le terrain. Tu assumes. Si tu n'es pas bon, tu te tais et tu restes sur le banc et tu regardes les autres, a dit la vedette française Kylian Mbappé. Schlicht en a un peu fait son mantra. Oui, j'ai 22 ans, mais au final, je veux être traité comme l'analyste vidéo. Si je fais une connerie, je ne veux pas qu'on dise que ce n'est pas grave. Je travaille dans une équipe professionnelle, raconte-t-il dans un long entretien avec La Presse, dans une salle de classe au centre Nutrilait. Et la façon avec laquelle il a obtenu ce rôle est particulièrement intéressante. Des débuts comme analyste amateur. féru de soccer depuis aussi longtemps qu'il se souvienne, Schlitz s'est fait découvrir par les passionnés du ballon rond grâce à ses analyses tactiques sur un site spécialisé, ses comptes rendus des performances des joueurs du CFM sur Twitter, on y reviendra, et ses chroniques à Génération Soccer à RDS. Schlitz a entamé son parcours dans le monde du soccer de haut niveau comme entraîneur. Après sa carrière de joueur, un ancien coach lui a proposé de venir l'aider à diriger les U14 du Celtics du Haut-Richelieu. Comme il a rapidement fait sa marque, on lui a offert le poste d'analyste vidéo de l'équipe senior qui évolue dans la meilleure ligue au Québec, la PLSQ. En compagnie de David Sauvry, désormais analyste vidéo de l'équipe réserve du Galaxy de Los Angeles, il a travaillé d'arrache-pied pour aider au succès du club. Le Celtics a terminé au troisième rang et leurs efforts respectifs ont été remarqués. Sauvry et moi, on a passé beaucoup trop de temps à travailler sur le club par rapport à notre salaire. On ne faisait pas un sou avec ça, dit Luan Schlitz, analyste vidéo du CF Montréal. Puis, quand l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui était championne universitaire canadienne en titre, a instauré un programme de vidéo, vers qui s'est-elle tournée pour donner le coup d'envoi du programme? Vers un jeune Luan Schlitz, qui avait également eu droit à des avis favorables de joueurs dirigés avec le Celtics. Au passage, il dit avoir lu une centaine de livres pour parfaire ses connaissances sur le monde du soccer. Même s'il était en mode éponge, son bagage de connaissances et sa feuille de route devenaient de plus en plus attrayants pour un futur employeur. Puis, par magie, l'an dernier, il est apparu sur le radar de Maxime Chalier, analyste vidéo du CFM. Ce dernier a eu droit à un peu plus de budget et pouvait se permettre d'aller recruter un adjoint. Et qui, de mieux que Luan Schlitz, qui a gravi les échelons du petit monde de l'analyse vidéo québécoise, à la vitesse grand V? En 3 semaines, c'était réglé, se rappelle Schlitz. Après quelques rencontres avec Chalier, il a discuté avec l'entraîneur-chef de l'époque, Wilfried Nancy, puis avec le vice-président et chef de la direction sportive, Olivier Renard, et ils ont tous été sur la même longueur d'onde. S'entame alors son parcours dans le grand club. Ça signifiait également la fin d'un autre chapitre pour Schlitz. Il a mis un terme à son baccalauréat en journalisme pour faire le grand saut et finalement travailler à temps plein dans le milieu qui le passionne. C'est bien, très bien même. Mais après, il faut y rester. Le départ de Nancy, Chalier et plusieurs membres du personnel d'entraîneurs lors de la saison morte pour le Crew de Columbus a créé un flou autour du rôle qu'aurait Schlitz durant la prochaine campagne. En fait, il n'a plus de garantie. Finalement, le nouvel entraîneur-chef du CFM, Hernán Losada, a décidé non seulement de garder Schlitz au club, mais également de lui offrir une promotion en faisant de lui l'unique analyste vidéo du 11 montréalais. Je suis chanceux et reconnaissant que le club décide de me faire confiance après seulement une année dans le monde professionnel, a-t-il lancé. Après une saison comme assistant, il me donne les rênes du poste d'analyste. Contrairement à l'an dernier, Schlitz sera sur la route avec le club cette saison, même s'il sera parfois épaulé par Hervé Diaz, entraîneur adjoint, la personne responsable de la vidéo et du data, c'est lui. Travailler pour mon club. Né en France, Schlitt a instantanément encouragé l'Impact quand il est arrivé au Québec en 2011. Mais commencer à diriger le club qu'il regardait venait aussi avec des doutes, explique l'ancien détenteur d'abonnement de saison. Quand je suis arrivé, j'avais peut-être un peu peur de l'avis de certains joueurs. J'écris des trucs sur les réseaux sociaux et même si les joueurs disent qu'ils ne regardent jamais ça, la plupart le font. Donc, au départ, je me disais, est-ce que le petit jeune de 21 ans qui fait des commentaires sur les réseaux sociaux a vraiment les épaules pour dire quelque chose à Victor Wanyama, qui était sur le banc lors d'une finale de la Ligue des champions? Se demandait Luan Schlitt, analyste vidéo du CF Montréal. Même s'il n'a jamais douté de ses connaissances tactiques, petit à petit, Schlitt a prouvé aux joueurs qu'ils méritaient leur confiance. L'un des exemples qui l'illustre le mieux, c'est qu'après une rencontre, Kei Kamara, qui figure parmi le top 3 des plus vieux joueurs du circuit, a demandé à Schlitt de passer les clips du match en revue avec lui. Comme quoi on peut toujours apprendre et qu'on n'est jamais trop jeune pour enseigner. Quand j'y pense, j'ai 22 ans et je vis de ma passion. C'est bizarre à dire, lance-t-il tout bonnement. Il y a fort à parier qu'il devra continuer à se pincer, car ça devrait être son quotidien pour un bon nombre d'années. C'était CF Montréal, quand l'élève devient le maître, un texte de Justin Vézina, paru le 5 février 2023 dans La Presse.
Menacée de quitter le Québec, la plus vieille cloche de Montréal sera finalement protégée. Un texte de Mathieu Robert Sauvé, paru le 3 février 2023 dans le Journal de Montréal. La plus vieille cloche de Montréal, datant de 1732, et qui est menacée de quitter le Québec, sera finalement protégée par le gouvernement et restera donc dans la belle province, a appris le journal. Québec annoncera le 3 février que la cloche de l'église de la Visitation de Montréal, aussi surnommée la cloche de la chapelle Notre-Dame de Lorette, retrouvée dans une collection privée à Rivière-du-Loup après avoir disparu pendant 30 ans, sera reconnue comme bien d'intérêt patrimonial. Le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, a signé un avis d'intention de classement de la cloche de bronze et d'airain. Par ce geste, il reconnaît que ce bien patrimonial constitue un trésor national et il s'assure de le protéger au bénéfice des générations futures, soutient le ministre. Nous ressentons un grand soulagement, lance au bout du fil l'architecte à la retraite Jocelyn Duff, qui attend depuis 2 ans cette décision. Le ministre l'a appelé personnellement jeudi en soirée pour lui annoncer la nouvelle, le remerciant pour la forte mobilisation citoyenne que son action a soulevée. 2 ans d'attente. Avec Patrick Goulet, coordonnateur à l'entretien et au service de la paroisse La Visitation, M. Duff a retrouvé la cloche dont on avait perdu la trace depuis 30 ans. Puis, il a déposé le 15 février 2021 au ministère de la Culture et des Communications du Québec une demande visant à classer cette pièce. Cloche produite en 1732 en France par le fondeur Moine. Elle a disparu pendant 30 ans, avant d'être retrouvée dans une collection privée de Rivière-du-Loup. Depuis, les choses ne bougeaient pas et M. Duff est revenu à la charge en priant le nouveau ministre de sauver la plus ancienne cloche de Montréal dans une lettre au devoir parue le 29 décembre. Dans un article du journal paru en janvier, les deux membres de la Société d'histoire d'Annecy-Cartierville déploraient l'inaction du gouvernement pour sauver la cloche. Le dossier de la cloche avait d'abord été porté par l'ancienne députée libérale de Maurice Richard, Marie Montpetit, qui avait lancé une pétition. C'est le député de Québec solidaire, Haroun Boisy, qui a repris le flambeau. tous craignaient que la cloche quitte le Québec. Actuellement, entreposée au carillon touristique de Rivière-du-Loup, un musée en plein air fermé au public depuis plusieurs années, la cloche suscitait la convoitise de collectionneurs étrangers. En Europe, les cloches datant du 18e siècle sont très rares, puisqu'elles ont été nombreuses à être fondues pour en faire des munitions. Une étape. L'avis d'intention, signé par le ministre Lacombe, ne marque pas la fin de l'aventure. À partir d'aujourd'hui, le public a 60 jours pour faire des représentations auprès du Conseil du patrimoine culturel du Québec, après quoi le ministre aura 3 mois pour signer un avis de classement. Ce n'est qu'à ce moment que le bien sera inscrit au registre du patrimoine culturel. Le but des défenseurs du patrimoine est de rapporter la cloche dans le giron de l'église de Notre-Dame-de-Lorette qu'il a commandée en 1732 et qui a été démolie depuis pour être remplacée par l'église de la Visitation située au 1847 boulevard Gouin-Est. Pour cela, il faudra s'entendre avec le propriétaire actuel et rassembler les fonds nécessaires. La signature de l'avis d'intention n'est qu'une étape, mais elle était essentielle, conclut M. Doff. Vous venez d'entendre, menacée de quitter le Québec, la plus vieille cloche de Montréal sera finalement protégée. Un texte de Mathieu Robert Sauvé, paru le 3 février 2023 dans le Journal de Montréal.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vizevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion et Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault et Diane Métayer à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.